Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, merci d'être au rendez-vous de Séquence Midi, votre émission d'actualité en direct du lundi au jeudi de 12h30 à 13h. Avec vos découvertes musicales, votre agenda, votre rendez-vous cinéma du mercredi, puisque c'est l'ouverture de la quinzaine des cinéastes, et bien sûr vos invités. Aujourd'hui, on va parler science, vulgarisation scientifique et un nouveau sirop. On en parle en seconde partie d'émission. Mais d'abord, on parle médiation en compagnie d'Alexandra Abbassier, qui est directrice du groupement d'intérêt public collectif Médiation Grand Poitiers. Bonjour.
Bonjour.
Et Adrien Beaupoux, qui est l'un des médiateurs et coordonnateurs. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous tous les deux. Alors d'abord, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce collectif médiation de Grand Poitiers et son rôle ?
Oui, bien sûr. Comme vous l'avez dit, donc le collectif est structuré en groupement d'intérêt public. C'est un petit peu barbare, c'est juste une structure juridique qui permet d'avoir un projet fort et une gouvernance également très forte, puisque les partenaires financeurs, donc que sont la ville, Grand Poitiers, Habitat de la Vienne, Equidom, Vitalis et Poitou Habitat Jeune, se sont retrouvés autour de ce projet pour voilà, mettre en place, renforcer un projet qui existait déjà dans le passé en fait, mais voilà, le groupement a permis de renforcer à la fois la gouvernance et de redéfinir un peu les contours du projet qui était au fil du temps, voilà, c'était un peu estompé et devenu plus flou. Et donc, nous avons recruté à partir de, entre voilà, début d'année, on a recruté 8 médiateurs et médiatrices au profil très, très diversifié, très varié, pour mener des missions sur le territoire de la ville et de Grand Poitiers, des missions de réparation, de création de liens sociaux, de voilà, rénovation de la cohésion sociale et puis aussi gestion de conflits du quotidien entre les habitants.
Parce que c'est vrai qu'il existait déjà des médiateurs sur le territoire. D'ailleurs, certains font partie de l'équipe. Ils étaient un petit peu en danger, ce rôle-là. Il a fallu le renforcer. C'était quoi l'idée ?
Non. Il y avait pas de danger. Les élus ont voulu vraiment renforcer cette mission-là au sein d'une nouvelle structure avec un budget renforcé également, puisque la ville de Poitiers est devenue partenaire financeur, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. Il y avait uniquement Grand Poitiers. Mais l'idée, c'était vraiment, de redéfinir le projet, d'en redéfinir les contours, puisque la médiation sociale telle qu'elle existait précédemment, elle avait une dizaine d'années d'existence et à un moment donné, y a eu cette volonté de redéfinir les choses, de les renforcer.
Et de redonner un nouveau souffle peut-être aussi. Vous avez récemment inauguré vos nouveaux locaux, donc place Coimbra. Cette implantation, j'imagine qu'elle n'est pas choisie au hasard. Qu'est-ce que ça représente pour le collectif ?
C'est l'importance d'être présent là où sont les habitants, et là où ils se regroupent, là où ils partagent des moments positifs, parce qu'on n'oublie pas que la place Coimbra, ce secteur-là, c'est le secteur du marché qui est très vivant. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le jour du marché. Et donc, c'est l'objectif, c'est d'être là où les choses se passent. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'on intervient sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, on devient petit à petit acteur du quartier aussi, en tant que tel, alors que ce n'est pas le seul quartier où on intervient. Mais on sent que on fait partie du décor, on commence à faire partie du décor. C'est assez, assez sympathique.
Alors vous, Adrien Beaupoux, vous êtes l'un de ces médiateurs. Concrètement, qu'est-ce que c'est vos missions au quotidien ? À quoi ça ressemble ?
Alors, les missions au quotidien, nous, on est principalement un travail de rue, donc on est beaucoup dans la rue, on essaye d'être là toutes les demi-journées en binôme, pour éviter l'isolement professionnel, donc, et on est là sur les quartiers, on essaye d'abord de se rapprocher des habitants dans un premier temps, puisque là, on est une nouvelle structure, on n'est pas encore reconnu par tous et par toutes, donc l'idée, là, dans un premier temps, c'est de se reconnecter au terrain, via les habitants, via les structures et institutions qui sont sur place, les associations et autres, et puis de détecter les problématiques qui peuvent gêner les habitants dans leur vie de tous les jours, que ce soit des problématiques techniques ou plutôt interpersonnel, et là la médiation a toute sa place.
Et quels sont justement les types de conflits pour lesquels vous pouvez intervenir ?
Alors c'est très varié, on peut aller de la nuisance sonore aux problèmes d'hygiène, des conflits d'usage, il y a vraiment toutes sortes de choses, tout ce qui peut faire qu'au quotidien on peut se retrouver à se fâcher contre quelque chose ou quelqu'un, l'institution, le voisin, un fonctionnement, et nous on est là pour remettre un petit peu d'ordre, un petit peu d'information aussi pour savoir comment les choses se font, et après on essaye par le dialogue d'apporter un peu d'apaisement dans cette tension-là.
Et qui est-ce qui vous sollicite ? Est-ce que ce sont les habitants directement, les institutions qui constituent le GIP ?
Alors bon, pour l'instant, on n'est pas taillé hein, pour pouvoir justement être directement saisi par les habitants. Hein. On n'est que 8 médiateurs. Donc là, pour l'instant, on est saisi directement par nos partenaires financeurs, hein, que je ne vais pas répéter, hein, mais voilà, dont les deux bailleurs sociaux importants de Grand Poitiers. Donc eux peuvent nous saisir directement. Et puis après, on a aussi un peu des partenaires dits privilégiés hein, sur les quartiers, les centres sociaux par exemple, hein, qui sont directement ancrés sur le territoire et qui sont au contact des habitants. Donc nous, s'ils ont des informations à nous faire remonter, on est toujours preneurs. Hein, l'idée, c'est de connaître ce qui se passe sur le quartier quasiment au moment T pour voilà, connaître les problématiques et pouvoir apporter des réponses aux habitants.
Et justement, vous le disiez, donc, les bailleurs sociaux, les collectivités, le Vitalis également, donc tous ces partenaires, comment ça fonctionne en fait ce partenariat, comment ils travaillent tous ensemble?
C'est un conseil d'administration tout simplement, donc on a une présidente du conseil d'administration qui est Alexandra Duval, donc qui est élue de Grand Poitiers, et puis un vice-président qui est Cédric Fèvre, le directeur de Vitalis, et donc le conseil d'administration se réunit alors très fréquemment dans ce temps de démarrage, il s'est réunis encore plus fréquemment dans le temps de préparation. On se voyait toutes les semaines pour vraiment cadrer le projet, définir les modes de fonctionnement, etc. Et donc, le prochain CA est, voilà, est dans quelques jours. Donc, et on traite à ces moments-là à la fois des éléments de bilan d'activité, parce que c'est quelque chose qui est important pour les partenaires, de savoir ce que font les médiateurs, d'avoir un rendu de leur activité. Et puis ensuite, on programme voilà, les choses qui sont importantes pour l'avenir. Et y a les, bon, je vous épargne les questions budgétaires, comptables, etc., qui font partie à part entière hein, de la vie d'un groupement comme celui-ci. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de s'associer, de travailler, de partager sur le projet, sur le fond. Voilà, les aspects plus organisationnels sont importants aussi, mais c'est pas ce qui l'emporte, en fait. Et c'est là où je dis que la gouvernance s'est renforcée et que les partenaires ont vraiment voulu devenir acteurs à part entière du projet et pas seulement financeurs d'un service.
Alors, on a connu les violences urbaines, c'était 2023. L'année dernière, un drame aussi aux Couronneries. Est-ce que, justement, ces événements ont accéléré peut-être le processus, ont permis de le structurer plus rapidement que prévu?
Le projet de restructuration était dans les rails avant ces événements tragiques. En revanche, effectivement, nous sommes un maillon de la chaîne. On n'a pas de baguette magique, ou, enfin, on n'a pas encore trouvé le fournisseur, en tout cas, mais on est un maillon de cette chaîne-là, effectivement, et ces choses-là sont importantes. En fait, la médiation sociale intervient sur plusieurs modes, Adrien l'a dit, en prévention, etc. Et sont aussi les médiateurs et médiatrices sont aussi là pour sentir la température voilà, d'un quartier, pour mesurer, analyser, faire de la veille. Et donc, on n'est pas la solution, on ne sait pas parce qu'on est là qu'on va empêcher qu'il y ait demain, qu'il se passe un autre drame, etc. Mais en revanche, on a un rôle important un peu dans l'analyse et dans la mesure de ce qui peut se passer.
Oui, vous pouvez sentir s'il y a des changements, s'il y a des personnes, parce qu'on sait que c'était des personnes extérieures qui étaient venues l'année dernière. Donc ça, vous pouvez peut-être le ressentir, être alerté en tout cas, ou alerter les personnes concernées, l'autorité judiciaire.
Oui, alors après, voilà, l'idée, c'est que les médiateurs, comme disait Sylvie Alexandra, c'est qu'ils captent un petit peu la température du quartier. Donc après, quand on voit des choses un peu nouvelles, un peu différentes et qui peuvent être alertantes, là, en effet, on a tout intérêt à nous mettre en lien avec les partenaires institutionnels et autres pour justement prévenir de quelque chose qui peut être un risque, un danger, ou même des fois, on peut faire remonter des choses au niveau de l'équipement aussi, auprès de la mairie, Grand Poitiers, en fonction de qui gère l'équipement.
Quelles sont les qualités qu'il faut pour être un bon médiateur?
Alors faut être, je dirais que déjà, il faut être disponible, il faut être souple dans l'organisation, parce que l'idée, comme a été dit précédemment, c'est d'être là sur le temps des habitants. Donc, faire des horaires du bureau, ça n'a pas de sens. Donc là, nous, l'idée, on essaye vraiment d'être sur la temporalité des habitants, donc être souple sur l'organisation. Je dirais qu'il faut avoir un grand sens de l'écoute aussi, puisqu'on capte du coup beaucoup d'informations, on échange avec les habitants, que ce soit comme ça de manière informelle ou même dans le cadre de saisine quand il y a un conflit avéré qui nous est remonté par un partenaire. Là, il faut prendre le temps de laisser la personne vider son sac, écouter et savoir faire reformuler. Donc c'est ces ensembles-là de compétences, de savoir-être qui sont nécessaires aux médiateurs. Savoir écouter, identifier, relayer et puis voilà, s'adapter après en fonction du temps, de la saison, puisque les problématiques ne sont pas les mêmes d'une saison à une autre.
Et puis peut-être une dernière question, là vous récoltez aussi pas mal d'informations, est-ce que ça va permettre aussi d'orienter les futures politiques publiques dans les quartiers notamment ?
Alors nous, effectivement, comme vous le dites, on fait remonter, on n'a pas la main sur ce qui peut se passer ensuite, hein, sur l'évolution des politiques publiques, mais la ville et Grand Poitiers et des grandes institutions comme les bailleurs étant nos partenaires, voilà, c'est important, effectivement. Notre rôle est important pour faire remonter des évolutions de besoins, des choses qui se passent dans les quartiers, qui peuvent être un peu dans des fonctionnements à la marge a priori, et quand on analyse, on se rend compte que ça répond à un besoin... Voilà, je ne vais pas vous donner d'exemple en particulier, mais voilà, c'est important pour nous de faire remonter. Et puis aussi, peut-être, d'accompagner certains groupes de personnes à exprimer leurs besoins, plus que nous le faire. Parce qu'il y a un principe qui est important dans la médiation, c'est l'aller vers, donc ça on l'a expliqué, mais c'est faire avec. C'est-à-dire que les médiateurs n'ont pas pour rôle de faire à la place des gens, ils les amènent à la solution. Et donc amener des gens qui peuvent avoir des pratiques, alors je peux citer le barbecue sauvage par exemple, voilà, c'est un bon exemple de choses qu'on traite de plus en plus quand les beaux jours arrivent, mais qui c'est pas autorisé aujourd'hui, néanmoins ça répond à quelque chose dans la société, et voilà, à nous aussi d'accompagner l'expression de ce besoin,
qui trouve des solutions compromis auprès de la collectivité pour pouvoir faire quand même des barbecues tous ensemble. Merci beaucoup Alexandra Abassi, donc vous êtes directrice de ce GIP collectif Médiation Grand Poitiers, et donc Adrien Beaupou, coordonnateur et médiateur. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
On continue en musique. Derrière les textes décapants d'astérotypie se cache la spontanéité de Claire, Stan, Johan et Aurélien, quatre artistes vivant avec un trouble du spectre autistique. Celui de Cheese Bad Girl est écrit par Claire Ottaway, aussi journaliste au Papotin.
C'est d'ailleurs la seule explication possible.
Tu sais, il est étoile en plus.
Et alors que la recherche s'invite dans les bars à Poitiers, on accueille François Jérôme, qui est directeur de recherche au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Et Karine Vigier, qui est donc chercheuse et professeure des universités au laboratoire IC2MP, je ne sais pas si on dit ça comme ça, à l'Université de Poitiers.
Bonjour.
Bonjour.
C'est parfait.
Merci à tous les deux d'être là. Alors, peut-être nous parler un petit peu déjà de la manifestation Pint of Innovation. Quel est l'objectif un petit peu de ces rendez-vous?
Bah, l'objectif en fait pour ces rendez-vous, c'est aussi de faire connaître au grand public un petit peu les innovations dans les laboratoires. Donc en fait, l'objectif, c'est de vulgariser un maximum ce que l'on peut faire au niveau des laboratoires et surtout de montrer un petit peu quel peut être l'impact de la recherche dans la vie de tous les jours. Donc ça se traduit par une conférence grand public, notamment ce soir, donc un petit peu de pub, à la Guinguette, proche du Tison. Donc il devrait faire beau, ça devrait être sympa.
Et c'est bien pour ça qu'on vous a invité. En effet, c'est dès ce soir. Alors vous allez présenter votre projet Biomasse en sucre. En quoi ça consiste exactement?
Alors, l'objectif en fait pour nous sur ce projet-là, c'est de partir de déchets végétaux. Parce qu'en fait, quand on est chimiste, qu'on regarde des déchets végétaux, on voit à peu près 75% de sucre. Et l'idée, c'est de développer des technologies pour aller sortir ces sucres de ces déchets végétaux, pour reproduire des sirops, notamment qu'on appelle de glucose, qui peuvent être utilisés en chocolaterie, pâtisserie. Donc, dans ce cadre-là, on a une collaboration avec la chocolaterie Fink, par exemple. Et pour le plus long terme, c'est aussi de proposer des sirops de glucose à l'industrie chimique, puisqu'aujourd'hui, on sait refabriquer une multitude de produits chimiques à partir de sucre, donc d'origine végétale, plutôt que d'origine pétrole.
Et pourquoi c'est important de trouver une alternative au sucre classique?
Alors, le sucre classique, on arrivera à en produire, il n'y a pas de souci, mais on est tous conscients des petits problèmes de santé qu'il peut y avoir avec le sucre classique.
Ça devient l'un des problèmes de santé numéro un, d'ailleurs.
Bah, exactement. Donc, on essaie de voir un petit peu si on peut avoir un sucre avec un pouvoir sucrant identique, donc le goût. C'est ça qui est très important. Mais le fait qu'on puisse le métabolise en fait un petit peu différemment dans le corps humain et qui permet d'éviter peut-être certains troubles ou problèmes liés au sucre. Alors, on est bien d'accord, ça c'est très noble, hein, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc voilà tout le projet qu'on a mis en place. Et donc ce soir, si vous voulez entendre parler de ce qu'on peut faire avec les sucres, n'hésitez pas à venir nous voir, hein, parce qu'on donne plein d'exemples, autre le projet Biomasse en sucre. Voilà, on a plein de petits exemples sur que peut-on faire des sucres et comment on les obtient.
Alors derrière tout ça, il y a un processus chimique. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer en quelques mots? Parce que c'est ça, c'est pas de la magie.
Alors, le projet qui est en place actuellement, il y a une confidentialité. Hein, parce qu'en fait, on est en instance de brevet, etc. Donc malheureusement, on ne peut pas donner de détails sur le procédé qui a été mis au point. Donc voilà, on peut juste dire qu'on récupère des coproduits, je ne vais pas dire des déchets, parce que c'est vrai quand on parle de déchets et puis dire qu'on va mettre des déchets dans nos assiettes ou dans nos gâteaux, on n'a pas trop envie. Mais c'est des coproduits qui ne sont pas utilisés à l'heure actuelle, donc qui peuvent être valorisés. Et on essaie d'extraire toute la partie sucre qu'il y a dedans, parce qu'il y a beaucoup de composés, comme le bois par exemple. Pas mal de personnes ne savent pas, mais dans le bois, il y a énormément de sucre. On peut en trouver jusqu'à 75% en totalité. Donc c'est bon. Alors bien sûr, on va pas manger du bois, on est bien d'accord. Mais voilà, on le modifie et on obtient les sirops de sucre qu'on peut utiliser donc en pâtisserie ou chocolaterie, etc., etc.
Et alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration avec le chocolatier Fink, justement?
En fait, l'objectif, quand on avait démarré ce projet-là, c'était, donc nous, on avait pour un objectif, comme je disais tout à l'heure, pour l'industrie chimique. Et puis, il se trouve que, de connaissance, on connaît des chocolatiers pâtissiers. Et en discutant, on s'est dit, bah tiens, plutôt que d'avoir des sirops de glucose aujourd'hui issus de céréales, de pommes de terre, etc., c'était de tester un peu ces sirops de glucose. Donc, comme on les avait au laboratoire, l'idée, c'était de voir avec eux un petit peu comment ces sirops déjà s'incorporaient dans les recettes, etc. Donc, pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, donc, on a fait des chocolats, on a fait des muffins, on a fait des guimauves, pour voir un petit peu comment ce sirop se comportait, finalement avec des propriétés en termes de recettes plutôt pas mal. Le seul truc qu'on ne peut pas savoir aujourd'hui, c'est les propriétés gustatives, puisqu'en fait, avant de les goûter, il faut tout enregistrer au niveau européen, etc. S'assurer bien évidemment que tout n'est pas toxique, etc. Même si ça reste des sucres, il faut quand même le vérifier. Bon, néanmoins, avec Karine, on en a goûté quelques-uns, on est toujours en forme. C'était très bon, effectivement.
Donc les premiers goûteurs sont plutôt satisfaits.
Encore en bonne santé, donc c'est plutôt bon signe.
C'est chouette d'être chimiste et de devenir un petit peu chocolatier.
C'est rare. Hein.
À ses heures perdues. Et quels sont les autres développements que vous imaginez pour ce procédé chimique?
Alors, les développements, il y en a deux. Le premier, ça va être la montée en échelle. C'est-à-dire quand on va passer du stade où on est à l'échelle, j'irais, on peut monter jusqu'à 500 grammes, aller 1 kilo maximum dans les laboratoires. Après, passer en pré-industriel, j'irais, on va commencer à parler de plusieurs kilogrammes. Là, ça nécessite de repenser un petit peu les technologies, etc. Et puis, il y a différents aspects sur lesquels on travaille à côté de ça. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est la réglementation européenne, puisque là, on fait tous les tests d'écotox, etc., qui sont faits à Bordeaux, notamment. Les analyses de marché pour les analyses de coûts. Et puis, on regarde aussi tout ce qui est un petit peu propriété physico-chimique. Donc, Karine en a parlé un petit peu sur le pouvoir glycémique des sucres, peuvent aussi avoir des propriétés épaississantes dans les recettes. Voilà, c'est tout ça qu'on essaie aussi de regarder un petit peu à côté, au-delà de l'aspect pure synthèse, extraction des sucres.
Oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ces sirops de glucose et de la stevia, de tout. Dans les supermarchés, maintenant, on trouve toutes ces alternatives. C'est pour aller dans ce sens-là ?
Oui, sauf que, alors, sans aller trop loin, dans notre sirop de glucose s'apparente exactement au sirop de glucose qu'on peut obtenir par fermentation ou autre. Nous, il y a juste une petite chose qui change dans sa composition chimique, on va dire, qui fait qu'il n'aura pas du tout les mêmes propriétés. Les autres, en fait, la molécule n'est pas exactement la même, etc. Nous, on a vraiment une identification. On a quelque chose qui est en miroir, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si quelqu'un se donnait la main vers le bas et puis l'autre se donne la main vers le haut. Bah, nous, on a à peu près ça, voilà, on a cette différence-là dans nos sucres. Je ne sais pas si je l'explique, mais voilà, c'est un peu l'idée.
C'est ce qui fait qu'il y en a un, notamment, qui est assimilé. Celui qu'on mange, par exemple, le sirop issu d'amidon. Mm-hmm. Donc, grosso modo, vous assimilez tout dans l'organisme. Et le fait que nous, on mange, comme disait Karine, on ne mange pas de bois, par exemple. Donc, il y a une partie des sucres qui gardent leur pouvoir sucrant, qu'on va manger, mais que le corps va éliminer. Donc, en fait, pour un même pouvoir sucrant, on assimile, enfin, c'est ce qu'on attend, voilà. On va assimiler beaucoup moins de sucre.
Eh bien, merci beaucoup François, Jérôme et Karine Vigier. Donc vous serez ce soir, c'est à la Guinguette Pictave.
C'est ça.
Et vous pourrez en dire plus et tout le monde pourra poser des questions. Donc ça, c'était une petite mise en bouche.
Tout à fait.
Merci beaucoup.
Pour votre recherche. Merci beaucoup. Demain, dans Séquence Midi, on parlera du tofu fabriqué dans le Poitou. Si, ça existe. Et puis, on accueillera aussi le collectif Bien Vivre à Celles-l'Évêque, des habitants qui se battent contre un projet d'élevage de 140 000 poules pondeuses sur leur commune. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous cinéma avec Candice Mottet-Debert. Bonjour Candice.
Bonjour.
Médiatrice au cinéma Le Dietrich. Et aujourd'hui, tu nous parles de la quinzaine des cinéastes et tu as choisi un film en particulier.
Oui, tout à fait. Alors, la quinzaine des cinéastes, la quinzaine en salle, on va au Festival de Cannes chaque année et on vous ressort les films qu'on a beaucoup aimés. En premier, on vous parle d'Indomptable. Il sort aujourd'hui au Dietrich. C'est un polar de Thomas N'Gijol. Alors, Thomas N'Gijol, le comédien, le comique, on le connaît pour des comédies grand public comme Le Crocodile du Botswanga ou Casse départ, qui étaient des comédies qui avaient très bien marché et qui avaient déjà en leur sein quelque chose qui n'était pas que de la comédie grand public. Il y avait déjà beaucoup de finesse, beaucoup d'intelligence dans l'écriture, comme dans ses sketchs d'ailleurs, et ce depuis le Jamel Comedy Club en 2001. Cette fois-ci, Thomas N'Gijol, il nous propose un polar très âpre. C'est notre coup de cœur du mois. On vous incite absolument à venir voir Indomptable. À Yaoundé, le commissaire Bilong enquête sur le meurtre d'un officier de police. Dans la rue comme au sein de sa famille, il peine à maintenir l'ordre. Homme de principe et de tradition, il approche du point de rupture. Alors, Thomas N'Gijol, il s'est inspiré d'un documentaire qui était passé sur Arte en 97 sur de multiples meurtres à Yaoundé. Donc, c'est tiré d'une histoire vraie. Ce documentaire, il l'a vu quand il était adolescent. Ça l'a beaucoup marqué. Et il va donc réadapter cette histoire. Il va repartir au Cameroun sur la trace de sa famille. Finalement, Thomas N'Gijol, il explique en interview qu'il est né en France, qu'il est 100% français et qu'il avait toujours ce lien avec le Cameroun sans vraiment le savoir. Et on a la sensation qu'avec ce film, il met tout à fait le doigt dessus. Je voulais une petite critique de nous-mêmes. Voilà, nous-mêmes, on fait nos propres critiques maintenant. Thomas N'Gijol est de retour au cinéma, mais là où on ne l'attend pas. Indomptable est un polar âpre, tourné sur la terre de ses parents, le Cameroun. Une proposition inattendue, étendue, sur les dysfonctionnements de la société camerounaise. Voilà, c'est Amélie, la directrice, qui a écrit cette petite critique. On vous incite vraiment, il sort dès aujourd'hui et il va rester chez nous jusqu'à mi-juillet normalement. Mais venez soutenir ce film et soutenir le cinéma franco-africain. C'est très important aussi.
Et vous proposez aussi une petite soirée autour de l'écologie.
Tout à fait. Alors demain, on a mixé deux films qu'on a aussi repérés à Cannes. La mort n'existe pas et Amour Apocalypse. Ce sont deux grandes avant-premières. Les films sortiront fin 2025, peut-être courant 2026. Et en plus, au-delà d'être des fictions qui parlent d'écologie, ce sont des films franco-canadiens. Donc on s'est fait une petite soirée thématique. La mort n'existe pas, c'est un film d'animation de Félix Dufour-Laperrière qui dure 1h12, donc c'est très agréable. Après un attentat armé raté contre de riches propriétaires, Hélène abandonne ses compagnons et s'enfuit en forêt. Manon, une de ses amies et complice lors de l'attaque, revient la hanter. Hélène doit revisiter ses convictions, ses choix et leurs conséquences dans une vallée où métamorphose et grands bouleversements viennent bousculer l'ordre des choses. Donc là, on est sur un film sur la jeunesse, sur le militantisme, sur la culpabilité, sur l'éco-anxiété. Donc un film totalement dans l'air du temps. La mort n'existe pas, c'est en avant-première. Demain, jeudi 12 juin à 19h. Et puis, on reste au cinéma, on reste en salle, on sort juste fumer une clope et on re-rentre. Amour Apocalypse, donc juste après à 21h. C'est une comédie d'Anne Aymon avec Patrick Yvon, qui est un de mes acteurs comédiens canadiens préférés. Adam est un propriétaire de chenilles au grand cœur. Pour combattre son anxiété écologique, Adam commande une lampe solaire thérapeutique, ce qui l'amène à rencontrer Tina, une femme rayonnante dont la voix apaise tous ses soucis, qui travaille au service après-vente de cette lampe. Alors là, on est aussi 100% sur une comédie canadienne extrêmement agréable qui nous rappelle les comédies qui sortent de là dernièrement, notamment de Mona Chokri, etc. Après le pétillant Jeune Juliette, Anne Aymon revient au cinéma avec une œuvre drôle, généreuse et toujours un brin décalé. Si nous allons tous mourir, profitons-en pour vivre, semble nous dire la réalisatrice canadienne. Et c'est aussi une critique d'Amélie qui a vu le film en avant-première à Cannes. Amour Apocalypse, c'est demain soir jeudi 12 juin à 21h.
Merci pour tous ces rendez-vous et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Il est présenté par Thomas.
Bonjour à toutes et à tous, voici vos sorties pour ce mercredi 11 juin. Si vous attendez avec impatience le Tour de France, rendez-vous au marché Notre-Dame de 14h à 17h, où un stand de la FDJ vous attend. En partenariat avec l'Office du Tourisme de Poitiers, vous pourrez découvrir la préparation pour une étape, tester des vélos d'entraînement ou des vrais vélos du Tour, ou même participer à un quiz vous faisant peut-être gagner 2 places VIP pour l'étape du Tour de France féminin qui passe dans la Vienne. En cette journée nationale de l'archéologie, et si l'histoire locale vous intéresse, à 14h30, les archives départementales de la Vienne proposent une visite guidée et interactive. Mais également de 14h à 17h, un jeu, le mystère de la croix, une enquête archéologique à mener en famille. Vous incarnez de jeunes journalistes en 1893 au journal L'Avenir de la Vienne, qui doivent rédiger un article sur une mystérieuse disparition au cœur de l'archéologie poitevine. C'est sur réservation au 05 49 03 04 05 ou sur archives-2-sèvres-vienne.fr. Et enfin, au Top Castille, une pièce de théâtre ouverte aux malvoyants. Le spectacle Les Doyens présente un jeune homme qui remet en cause en comédie l'éducation classique de ses deux professeurs. Début à 19h30, mais si vous êtes aveugle ou malvoyant, la salle vous est ouverte dès 18h pour une visite tactile du décor et la distribution d'un casque d'audiodescription à utiliser pendant la séance.
Merci beaucoup Thomas, on te retrouve dès demain à 8h dans Espace Matin. Sur Pulsar, ce soir à 21h, c'est l'Indépendance, votre émission Novo Pop. Et à 23h, Sonokino, Tinder Sticks, autour de Claire Denis. Merci Angélique pour la réalisation technique de cette émission. 5 ans après leur premier EP commun et une tournée à leur actif, Damenco et Woody Vibes, figures de la scène dub française, sortent Crête et Moustache, un album qui scelle leur collaboration et qui les consacre comme un duo à part entière. Voici le titre Nomade. Bon après-midi en musique.
We'll be right back. Pulsar.